Frédéric Saïs, en face de vous, justement, une ancienne lobbyiste, Marie Lebec, merci d'être là. Vous êtes députée La République En Marche de la 4e circonscription des Yvelines. Vous rejoignez l'invité de la première partie, Stéphane Foucard, journaliste au Monde, lauréat du prix européen du journalisme d'enquête. Et vous venez de publier, comme je l'ai dit, Des marchés et des dieux chez Grasset. Votre réaction, Marie Lebec, à ce que vient de dire mon camarade Frédéric Saïs?
Déjà, je le remercie parce que les éléments sont assez factuels et très précis. Et je pense que ça voilà, retraduit bien la réalité. C'est vrai qu'il y a en France peut-être un peu un mythe autour de ce que c'est un lobby. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui a été alimentée, je pense, par les séries, par les films. Le dernier en date, je pense, c'est Miss Sloan, qui, je trouve, font un petit peu de dégâts sur ce que c'est réellement la profession. Et rappeler aussi qu'il y a un certain nombre de règles qui ont été mises en vigueur justement pour clarifier le rôle des lobbies, de quelle est leur action, dans quel champ ils peuvent intervenir, et le fait de dire que celui qui va défendre un intérêt particulier, quel qu'il soit juste ou peut-être moins noble, est un lobby.
Quelles sont ces règles, justement ?
Eh bien, on s'est beaucoup inspiré en France sous la loi Sympa 2 du registre de transparence qui avait été mis en place par l'Union européenne. On a aussi simplifié parce qu'avant il y avait un registre pour le Sénat, un registre pour l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut se déclarer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est donc une autorité indépendante qui contrôle l'activité des lobbies. Il faut déclarer ses activités, déclarer dans quel champ on agit et on peut.
Quel champ, c'est-à-dire quel secteur d'activité.
Quel secteur d'activité, tout à fait. Et puis, le citoyen peut consulter, avoir accès à cette information pour savoir qui échange avec qui, grâce au site, il me semble, Agora, qui a aussi été mis en œuvre suite à la loi Sympa 2.
Et aujourd'hui, vous êtes députée, je l'ai dit, Marie Lebec. Quand vous étiez lobbyiste, pour quel secteur avez-vous travaillé ?
Alors moi, essentiellement dans le champ de l'économie sociale et solidaire.
Donc, un secteur a priori proche, on va dire au sens large, des ONG, du social.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, l'économie sociale et solidaire, donc c'est un peu la nouvelle forme d'économie qui monte. Donc il y a un certain nombre de champs qui doivent être régulés, qui doivent être clarifiés.
Pourquoi ont-ils justement besoin de lobbyistes ?
On m'a beaucoup posé cette question pendant la campagne, puisque forcément, on a un peu l'impression que les lobbies rentraient à l'Assemblée. Mais vous avez une sphère économique, chefs d'entreprise, qui interagissent, qui sont dans leur milieu, qui sont très occupés. Et puis, vous avez le monde politique, qui sont souvent des généralistes, ou alors parfois des gens spécialisés, mais qui sont amenés à intervenir sur tout un champ de compétences sur lequel ils ne sont pas spécialisés. Et en fait, ces deux sphères, elles agissent l'une sur l'autre, mais elles ne se parlent pas. Le chef d'entreprise, moi je me rappelle quand j'étais lobbyiste, il vient vous voir et vous dit « Ah, il y a telle loi qui est passée, il faudrait la changer ». Mais non, c'est trop tard. C'est avant, en amont, qu'il faut aller expliquer à l'homme politique pourquoi réguler ou ne pas réguler, c'est important, et quel impact ça va avoir sur une activité économique.
Stéphane Foucard.
Oui, moi je crois que la définition même du lobby, finalement, elle ne dit pas grand-chose. Ce qui est vraiment important dans cette histoire, c'est le pouvoir relatif, finalement, de chacun de ces lobbies. Il y a bien évidemment en France un lobby de l'agrochimie et un lobby de l'apiculture, mais vous voyez bien que vous avez un porte-avions et à côté un canot pneumatique.
Il y a des grosses sociétés aussi dans l'apiculture.
Pardon ?
Il y a des grosses sociétés. Les apiculteurs sont souvent petits, mais en revanche, le commerce du miel est un gros commerce.
Oui, c'est un gros commerce. Enfin, les intérêts qui sont défendus par les apiculteurs sont des intérêts minuscules. Et on le voit, c'est traduit directement d'ailleurs dans la loi. Il a fallu attendre 20 ans de catastrophe de l'apiculture française et un effondrement radical de la biodiversité pour que le législateur se décide enfin à retirer du marché, en l'occurrence les insecticides néonicotinoïdes dont on parlait tout à l'heure, qu'il retire du marché des produits qui sont dénoncés par la communauté scientifique compétente depuis une vingtaine d'années.
Frédéric Saïs.
Oui, n'y a-t-il pas aussi un problème d'organisation à l'Assemblée nationale? Et là, je m'adresse à notre invité qui est parlementaire. Quand les députés ont une petite équipe de 3 ou 4 personnes qui voient des textes de loi défiler jour et nuit, est-ce qu'ils ne sont pas tentés, faute de pouvoir vraiment approfondir les sujets, de s'en remettre, pour employer une expression triviale, au dernier qui a parlé, c'est-à-dire au lobbyiste qui est venu avec sa petite fiche lui dire « attention, là vous allez faire une bêtise ».
Alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a effectivement un enjeu sur la taille des équipes parlementaires, et on a notamment certains de mes collègues qui se sont rendus aux États-Unis pour regarder un petit peu comment étaient faits justement les équipes des sénateurs notamment. Elles sont nettement plus grosses, ils ont autour d'une quinzaine de personnes, et la réforme des institutions qu'on veut mener devrait justement permettre permettent d'abaisser un peu le nombre de parlementaires, mais de garder des moyens constants pour qu'ils puissent avoir un peu plus de collaborateurs et qu'ils soient spécialisés dans certains sujets.
Mais problème de rythme aussi, si je peux me permettre, parce que là, vous défendez la réforme des institutions de votre parti, c'est bien normal, mais il y a aussi, tous les députés le disent, un rythme qui est beaucoup trop véhément pour pouvoir vraiment s'intéresser au fond des sujets.
Alors, il y a un rythme qui est intense, ça c'est indéniable. Après, il y a aussi, et c'est, je pense, une culture à acquérir, une histoire de confiance avec vos collègues parlementaires. Moi, je sais que le rapporteur Jean-Baptiste Moreau, qui a donc travaillé sur la loi agriculture, comme c'est celle dont on parle député essentiellement ce matin, c'est un spécialiste du sujet. Il a rencontré une très grande diversité d'intervenants, à la fois par le biais des états généraux d'alimentation, et puis après, on l'a vu, il a publié dans son rapport les organisations qui ont été auditionnées. Et c'est vrai que moi, par exemple, la loi agriculture, c'est un sujet que j'ai suivi un peu plus loin, parce que je suis dans une circonscription très urbaine. J'accepte à un moment de faire confiance à mon collègue, de reconnaître qu'il a eu une approche équilibrée, que l'ensemble des acteurs, et puis les textes qui nous sont fournis, les textes de loi, quand vous recevez un texte, vous avez le fondement juridique, puis vous avez aussi toute une analyse, article par article, avec l'état des lieux, les conséquences, les options qui ont été étudiées, les options qui sont retenues, et ce que ça va modifier. Donc vous avez aussi le moyen de vous informer.
Mais alors, par exemple, Marie Lebec, pourquoi avez-vous voté contre, ou pourquoi auriez-vous pu voter contre, puisque ça a été le cas du groupe La République En Marche, l'amendement 222, alors qui est celui qui concerne les vidéos obligatoires dans les abattoirs? D'ailleurs, c'était sur la base du volontariat. Pourquoi être contre les vidéos dans les abattoirs?
Alors là, c'est plus un choix personnel. Effectivement, il y avait la possibilité. Enfin, parfois, on a des consignes de vote pour le groupe quand il s'agit d'appuyer un amendement stratégique. Parfois, on nous dit liberté de vote sur chacun. Moi, j'ai voté contre l'expérimentation des vidéosurveillances, mais pas tellement parce que je suis en faveur du mal-être animal, comme j'ai vu sur certains posts sur les réseaux sociaux, mais plutôt parce que c'est pas du tout la société vers laquelle je souhaite tendre. Le fait d'avoir des caméras installées partout. Et alors là, effectivement, c'est sur la base du volontariat, mais moi dans ma fonction précédente, j'ai eu l'occasion d'aller visiter un abattoir de canards. Si vous avez été dans ces lieux-là, vous vous rendez compte de la violence du métier, de la difficulté et du fait aussi que la plupart d'entre nous refuseraient d'exercer ce métier. Donc je pense qu'avant de parler de caméras qui ne résoutent pas forcément le problème, il y a toute une série de mesures qu'on peut mettre en œuvre, notamment peut-être de soutien psychologique pour les personnes qui travaillent ici, de formation, de lanceurs d'alerte, c'est ce qui a été adopté d'ailleurs dans le texte. Il y a vraiment beaucoup d'autres mesures. Donc après, il y a cette expérimentation sur les caméras. Moi, j'y étais pas forcément favorable. On va voir si ça permet notamment. Mais ceux qui mettront des caméras, dites-vous bien que c'est ceux qui sont vertueux et pas ceux qui ne le sont pas.
Bon, alors contre l'amendement 2020, alors là, c'était l'interdiction des élevages de poules en cage. Pourquoi être favorable du coup à l'élevage de poules en cage?
Alors là, c'est, il me semble, ce qu'on disait. En amont de notre échange radio, cet amendement a été débattu lundi soir et moi j'étais pas présente dans l'hémicycle à ce moment-là. Effectivement, j'aurais voté à l'instar de mes collègues, puisque il y a plusieurs sujets quand vous étudiez l'histoire des poules en cage. Il faut bien sûr, c'est pas le modèle de société vers lequel on veut aller. Néanmoins, quand vous parlez de l'agriculture et de l'agroalimentaire, vous êtes dans un marché globalisé et donc c'est pas parce que vous faites fermer la filière en France que les industriels ne vont pas aller se fournir ailleurs. Donc il y a une vraie, je pense, certaines avancées qui ont été obtenues, notamment le fait de dire on n'installe plus, on n'autorise plus de nouvelles installations de poules pondeuses en cage en France, mais il faut aller progressivement vers la disparition de ce modèle, mais le fait de les interdire demain ne résoudra pas le problème, puisqu'en fait c'est plutôt presque une réflexion au niveau européen qui doit être conduite sur le sujet.
C'est-à-dire, en fait, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit que vous alliez protéger les élevages, et ils sont nombreux, hein, il y a beaucoup de poulaillers industriels. Vous vous êtes dit qu'il fallait protéger à la fois donc l'industrie de la volaille qui va d'ailleurs pas très bien en France, et aussi les agriculteurs qui avaient monté des poulaillers, parce qu'il y a souvent eu des aides et des subventions pour ce faire. C'est à eux que vous avez pensé quand vous avez voté contre les élevages de poules en cage?
Alors, effectivement, on pense tout d'abord à la filière, on pense ensuite à l'effet qu'on est dans un marché globalisé. Et puis, par ailleurs, moi, sur le texte qui relève quand même de l'alimentation, il y a un rôle très important des consommateurs. Il y a un de mes collègues qui a fait un très bon jeu de mots en disant « il faut être consommateur ». C'est-à-dire, à un moment, quand vous achetez votre poulet à 6 euros le kilo, vous vous doutez bien que c'est pas du poulet bio qui a gambadé en plein air. Et c'est pareil, il y avait une une vraie dynamique qui avait été mise en œuvre. Vous vous rappelez peut-être du scandale justement des œufs qui sont catégorisés 3, c'est-à-dire des œufs de batterie, où les industriels, la grande distribution avait annoncé qu'ils ne voulaient plus, pour la plupart d'entre eux, vendre de œufs catégorie 3.
Ça a été dit assez massivement.
Voilà, ça a été dit assez massivement. Alors, moi, j'ai pas fait le tour de toutes les grandes distributions, mais je pense que c'est plutôt vers ce type de société qu'on doit aller, parce que vous êtes dans un marché globalisé. Si vous voulez acheter du poulet pas cher ou des œufs de catégorie 3, vous trouverez toujours des fournisseurs européens. Mais le consommateur, s'il refuse les œufs en cage ou les poules élevées en batterie, il doit aussi faire ce choix d'aller vers du plus qualitatif. Il faut inciter les éleveurs à y aller davantage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait en demandant ce qui est davantage de surface bio. Le plan Ambition Bio qui sera présenté prochainement et vise aussi à améliorer l'alimentation. Mais il y a aussi un rôle du consommateur qu'il ne faut pas oublier.
On pourrait parler aussi aux aides qui ont été coupées aux agriculteurs bio, plutôt d'ailleurs au niveau des régions. Mais je vais prendre un autre exemple. J'ai continué à vous embêter. Le refus d'interdire à la télévision les publicités à destination des enfants pour les aliments trop gras, trop sucrés, trop salé. Là, on a du mal à comprendre, Marie Lebec.
Alors là, c'était pas que de la télévision, c'était sur l'ensemble des médias, et donc bon, il nous semblait. Je veux dire sur l'ensemble des médias, dont les réseaux sociaux, et donc une difficulté aussi quand vous faites la loi, il faut pas faire une loi qui est inapplicable. On a parlé du glyphosate, et je ne doute pas que votre invité sera certainement en désaccord avec moi, mais vous savez, si vous faites une loi et que vous savez pertinemment que vous votez une disposition qui sera inapplicable, déjà parce que par le simple fait de ne jamais publier le décret d'application, ça sert à rien, c'est juste de l'inflation législative, de la création de normes, mais ça ne résout pas le problème concrètement. Moi, je pense qu'il y a toute une notion d'information, etc. Mais il faut pas, et je pense que c'est vraiment ce qu'on essayait de mettre en œuvre depuis le début avec Emmanuel Macron, retirer la responsabilité au consommateur, à l'acteur. Vous savez, avant d'être élu, vous avez forcément eu cette discussion dans vos familles, moi je l'ai eu en tout cas, on dit l'État s'occupe de tout, il veut même réguler jusque dans notre vie quotidienne, j'en sais rien, quand on parle de l'interdiction de la fessée ou quand on parle du choix de l'alimentation. On fait confiance aux acteurs, on leur donne les informations nécessaires à ce qu'ils choisissent bien, on les incite à aller vers des pratiques vertueuses, mais je ne pense pas que la loi ait forcément vocation à tout résoudre.
C'est pas si vrai que ça, parce que dans le même temps, par exemple, vous avez mis en place l'obligation progressive des doggy bags dans les restaurants. Alors personne ne peut être contre les doggy bags a priori. Pourquoi les rendre obligatoires? A priori, là aussi, c'est la liberté des acteurs de décider ou non de mettre en place des sacs pour emporter la nourriture qui n'a pas été consommée.
Alors, c'est pas tout à fait exact. C'est l'obligation de proposer le fait d'avoir un doggy bag. Mais détrompez-vous, cet amendement avait été rejeté en commission des affaires économiques et finalement adopté.
Sur quelle base pouvoir?
On a eu une discussion assez. Moi, au début, je vous dis. J'ai ce qu'on appellerait un appétit d'oiseau, donc j'arrive au restaurant, j'ai toujours trop et je suis toujours un peu frustrée parce que je jette. Alors je me dis le doggy bag c'est super, et puis finalement à la suite des échanges qu'on a eu avec mes collègues, certains ont dit oui, mais finalement la culture de la gastronomie française, c'est le fait de partager un repas, un moment convivial assis autour de la table. J'ai aussi le président de la commission des affaires économiques, Roland Lescure, qui avait avancé un très bon argument en expliquant, lui il est représentant des Français de l'étranger pour la zone Amérique du Nord, Canada. Donc il y a le recul un petit peu sur l'expérimentation du doggy bag en disant que finalement ça n'incitait pas tellement à la réduction du gaspillage alimentaire, parce que souvent vous ramenez la portion chez vous, puis bon, c'est quand même moins sympa que quand elle est présentée au restaurant dans une assiette et donc vous l'achetez. Ça incite aussi à des portions plus grosses. Donc, sur la base de l'ensemble de ces arguments, la proposition avait été rejetée. Et puis finalement, avec la discussion avec nos collègues dans l'hémicycle, on a vu que la majorité, et notamment de nos collègues issus de la commission du développement durable, étaient favorables à cette mesure, et elle a donc été adoptée. Ils ont su convaincre dans l'hémicycle, la commission des affaires économiques, qui avait plutôt tranché en défaveur de cet amendement, s'est alignée sur la position de la commission développement durable.
Stéphane Foucard, alors ces arguments qu'on entend là, est-ce que ce sont des arguments qui sont véritablement des motivations avancées par le groupe, ce sont des éléments de langage qui servent en quelque sorte à justifier des prises de position servant des lobbies. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce que j'en pense, c'est que les lobbies, ils portent effectivement un kit d'argumentaires qui va pouvoir être utilisé par les parlementaires pour justifier a posteriori leur vote. Pour prendre simplement deux exemples, les vidéos dans les abattoirs. Marie Lebec a présenté cette mesure comme étant une forme de coercition sur les personnels. Bon, il y a, une façon tout à fait différente de présenter les choses. Mettre des vidéos dans les abattoirs, c'est aussi une manière de préserver les personnels des cadences intenables qui leur sont parfois imposées par leur hiérarchie. Ça va être plus compliqué de faire travailler les gens comme des fous alors qu'on sait que tout va être enregistré que si tout se passe à l'écart des regards indiscrets. Autre exemple, cette histoire de... d'amendement qui a été rejeté là, sur la limitation, la restriction des messages publicitaires ciblant les enfants et qui vendent des, voilà, de la nourriture transformée obésogène. Il y a une littérature scientifique fournie qui fait un lien mécanique entre la probabilité qu'un enfant développe un surpoids ou une obésité et la quantité de messages publicitaires pour ce genre de nourriture transformée à laquelle il a été exposé au cours de son enfance. Donc voilà, c'est des choses qui sont factuelles et de se dire qu'on ne va pas réglementer cette question parce qu'il y a des réseaux sociaux, parce que, etc., dans ce cas-là, il faut dissoudre immédiatement le CSA. Évidemment, on ne peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler la télévision, on peut contrôler l'audiovisuel, enfin il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et on peut réduire très facilement, quand on est parlementaire, l'exposition de cette population vulnérable, hein, des enfants, à ces messages publicitaires.
Oui, c'est vrai, Marie Lebec, on fait la chasse aux fake news, pourquoi ne pas faire la chasse à la junk food? Finalement, la mauvaise information, c'est aussi nocif que la mauvaise alimentation et les enfants ont un libre arbitre qui est moins important que celui des adultes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont considérés comme n'ayant pas forcément un consentement éclairé.
Non, bien sûr. Et le fait, c'est de... Enfin, effectivement, ce sont les enfants à qui sont adressés ces messages, mais ce sont les parents qui font l'acte d'achat et qui le décident in fine. J'entends tout à fait cette position. Moi, c'est quelque chose que j'ai choisi sur lequel je n'ai pas voté. Enfin, en matière de, pardon, c'était sur le Nutri-Score parce que qu'avait porté mon collègue Olivier Véran.
Alors, le Nutri-Score, juste pour le rappeler en deux mots, c'est ce petit label qui est placé sur les aliments et qui permet de savoir si l'aliment est bon, catastrophique sur le plan diététique, médiocre, etc.
Exactement. Et donc, il y avait un débat sur le fait de l'imposer dès à présent sur l'ensemble des aliments, puisqu'il y a une expérimentation qui est en cours actuellement. Je me suis abstenue sur ce sujet, puisque, effectivement, je partageais la conviction que c'était de l'information supplémentaire, peut-être simplifiée, qui était apportée aux consommateurs, ce que ne considéraient pas d'autres de mes collègues qui ne défendaient pas cette position. Moi, je pense qu'effectivement, il y a toujours un petit peu deux façons de regarder un message. Mais... je suis pas sûre, vraiment, je dis pas ça, c'est pas un des éléments de langage de lobby ou du parti. Je suis pas sûre que l'État ait vocation à réguler le moindre détail de la vie des Français.
Mais vous régulez beaucoup de choses quand même. Regardez les fake news par exemple, vous régulez le type d'information qui va pouvoir être servi aux individus. Alors on peut le comprendre, hein, ça peut se justifier, mais il y a un parallélisme entre ce que l'on peut fournir au cerveau des individus et à leur estomac.
Ouais, moi je partage pas tellement cette conviction parce que en matière de fake news, finalement vous n'avez pas de décision, vous absorbez de l'information toute la journée, il n'y a pas, vous voyez, d'acte définitif de dire je choisis d'acheter ou de ne pas acheter ce produit parce que j'estime qu'il n'est pas, bon, mais ça n'empêche pas le besoin effectivement d'accroître l'information, de peut-être mieux former les enfants si on veut, leur faire peut-être donner plus de moyens sur qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée, les inciter à faire davantage de sport. Est-ce que vraiment c'est le rôle de l'État de réguler quel type d'alimentation vous devez consommer? J'en suis pas persuadée, mais je ne suis pas non plus persuadée.
C'est le rôle
de
l'État de protéger les plus faibles, et les enfants sont faibles. Alors parfois ils sont dans des familles qui font filtre, et d'autres fois non.
Oui, mais vous faites aussi confiance aux acteurs pour qu'ils aient un choix raisonné et éclairé en leur amenant l'information nécessaire.
Stéphane Foucard.
Et moi, je crois que bon, il y a une vision effectivement très très libérale qui fait des individus les responsables de ce qui leur arrive, à laquelle on peut adhérer ou ne pas adhérer. Mais par exemple, pour le Nutri-Score, son principe, c'est précisément d'informer les gens pour qu'ils puissent prendre un avis éclairé sur la manière dont ils se nourrissent. Donc, je vois pas trop quel type d'argument a pu être mobilisé pour faire en sorte que des parlementaires votent contre ou s'abstiennent sur ce genre de mesures. Il y a quelque chose qui est très fréquemment mis en avant par les lobbies industriels, c'est la notion notion d'incertitude, on n'est pas certain, ou la notion de controverse. Et controverse, c'est le Nutri-Score, est-ce que c'est vraiment un indicateur qui est pertinent, qui est consensuel, etc., etc. Et sur énormément de dossiers techniques, en fait, cette question, ces deux questions, celle de l'incertitude et de la controverse, en tout cas de la controverse alléguée, est systématiquement instrumentalisé par les groupes d'intérêt pour faire pencher la balance de tel ou tel côté.
Marie Lebec, est-ce que vous êtes contactée en tant que députée par des groupes d'intérêt ? Est-ce qu'on vous fait des cadeaux ? Est-ce que vous avez des menaces ? Est-ce que vous avez des pressions ? Comment ça se passe ?
Alors, juste, je voudrais éclairer sur le Nutri-Score. De mémoire, l'argument qui a été avancé, je vous dis de mémoire parce que le texte a été très dense, mais c'est qu'il y a une expérimentation en cours et que le fait d'imposer avant la fin de l'expérimentation peut être retoqué par le Conseil constitutionnel. In fine, il faut que l'expérimentation aille au bout, et il me semble que c'est ça l'argument qui avait été avancé. Est-ce que je suis sollicité par des lobbies? Oui, très très largement.
Mais alors comment ça se passe, comment
Alors il y a beaucoup de méthodes différentes. Je pense que c'est aussi un peu il y a un côté un petit peu jeu de stratégie quand vous êtes lobbyiste. Comment est-ce que vous allez avancer? Quel argument vous allez être mis en avant? Donc il y a plein de techniques différentes. On va dire il y a la technique classique des grands lobbies ou des grandes entités représentatives qu'on pourrait appeler le MEDEF ou tous les autres syndicats qui viennent vous solliciter en rendez-vous et qui vous amènent de l'information. Effectivement, c'est toujours de l'information qui est de bonne qualité, mais qui est parcellaire, parce qu'il ne vient que d'un seul côté. Vous avez des lobbies aussi qui organisent des temps d'échange avec des grands dirigeants d'entreprise sur une thématique un peu plus généraliste, mais effectivement, les invités sont choisis, donc ça oriente toujours un petit peu les débats et les arguments. Et puis vous avez une méthode que vraiment qui m'exaspère. Vous êtes harcelé par des campagnes de pétitions. Enfin, moi je veux pas citer L214, mais je vais quand même le faire parce qu'il quand même m'envoie presque 700 mails par jour en ce moment pour me dire à quel point parce que mes décisions politiques sont mauvaises et catastrophiques. Et donc je veux dire, c'est vous instrumentaliser la population en fait pour qu'elle vous adresse ces pétitions et qui sont quand même assez violentes. Et je tiens quand même à le souligner. Mais en fait, quand vous voyez, le problème, c'est pas le fait de voir un lobby, c'est d'en voir qu'un seul. Parce que moi, quand j'ai travaillé sur le commerce extérieur, et ben j'ai vu l'ensemble des représentants du commerce extérieur qui, bien sûr, m'ont tous expliqué pourquoi ils étaient le bon acteur pour mener la politique, le développement à l'international des entreprises. Mais l'idée, c'est d'en voir un maximum pour se faire une conviction de savoir quels sont les enjeux, qui est le meilleur acteur, quelles sont les différentes. Même eux ont de l'information parcellaire. Donc quelle est leur vision spécifique du sujet. C'est ça, le rôle du député, c'est de ne pas écouter qu'un seul tenant, qu'une seule position, mais bien d'essayer d'en voir un maximum.
Et sur le plan politique, Marie Le Pec, puisque vous êtes députée La République En Marche, est-ce une bonne stratégie que, finalement, de ne pas interdire le glyphosate, alors que l'opinion publique, votre électorat, d'ailleurs l'électorat de La République En Marche, est quand même manifestement très mobilisé contre les pesticides?
Il y a une volonté effectivement de dire, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, Emmanuel Macron, on porte un message de dire une société de confiance, c'est-à-dire on a, et le président s'y est engagé, et je crois qu'à ce jour, il n'y a pas beaucoup d'engagements qu'il n'ait pas tenu.
Bah, celui-ci par exemple,
l'interdiction
du glyphosate.
Non, il a interdit le glyphosate, dans 3 ans il n'y aura plus, on incite les acteurs à dès à présent trouver des solutions,
ans,
parce que dans
savez,
3 ans, le glyphosate sera, l'usage du glyphosate sera interdit en France, et donc il faut que, dès maintenant que les acteurs soient mobilisés pour trouver des alternatives. C'est pas parce que vous l'inscrivez dans la loi que vous allez davantage trouver de solutions. Par ailleurs, si vous l'inscrivez dans la loi que vous ne faites jamais paraître le décret d'application, c'est 3 ans, c'est long, et dans 3 ans, c'est pareil, décret d'application, tout le monde aura oublié. En plus, en France, généralement, les gens ne savent pas que s'il n'y a pas eu de décret d'application, la loi n'est pas appliquée, donc ça ne change pas grand-chose. En revanche, nous, il faut effectivement qu'on soit très proactif. Il y a un groupe de suivi qui a été monté à l'Assemblée nationale pour justement accompagner les acteurs dans la conduite de ce changement et dans le fait de trouver des alternatives. Et par ailleurs, effectivement, il y a la question du glyphosate, mais il ne faut pas oublier, et on en a parlé tout à l'heure des apiculteurs, qu'on a interdit le recours aux néonicotinoïdes, qui sont en fait des pesticides qui font un carnage vraiment sur les abeilles, qu'on va porter le bio, qu'on veut davantage de bio dans la restauration collective. Donc effectivement, il y a peut-être une frustration sur le fait de dire pourquoi vous n'avez pas inscrit le glyphosate dans la loi, mais il ne faut pas oublier que dans cette loi, il y a eu des avancées en matière de agriculture saine, durable, plus respectueuse de l'environnement, qui ont été obtenues.
Stéphane Foucault,
Oui, sur cette question d'interdiction du glyphosate, moi, j'ai pas de religion.
Sur les progrès, d'après ce que dit Marie Lebec, qui auraient été obtenus sur la manière dont l'agriculture, dont l'industrie agroalimentaire utilise ou non des pesticides.
Il y a en réalité très peu d'avancées qui ont été obtenues par cette loi, tout simplement parce que c'est très compliqué de faire changer les pratiques des agriculteurs. On parlait tout à l'heure du plan Ecophyto qui a été un échec absolument retentissant, avec un objectif de 50% de réduction qui s'est traduit par une hausse de 22% sur 10 ans. Cette question du glyphosate, à mon avis, Marie Lebec et La République En Marche est très confiante sur le fait qu'on s'en passera dans 3 ans. Moi, je suis prêt à prendre le pari ici que dans 3 ans, on utilisera toujours du glyphosate et on utilisera toujours du glyphosate jusqu'à ce que nos partenaires européens, globalement, décident de sortir de ce système agricole.
A priori, donc, Marie Lebec, il n'y a pas eu véritablement de rupture. Est-ce que ça signifie là aussi que les lobbies ont raison sur la question du glyphosate et sur la question des pesticides ?
Les lobbies ont raison, c'est-à-dire, pardon...
Ah, ça veut dire que là, en l'occurrence...
Est-ce qu'ils ont gagné ou est-ce que leur...
Non. L'industrie agrochimique et les agriculteurs, je parle des agriculteurs qui souhaitent une agriculture intensive, eh bien, ont gagné là-dessus.
En tout cas, je rejoins ce qu'a dit votre invité, il y a une nécessité de faire évoluer les pratiques et de le faire intégrer. Moi j'en ai pas mal discuté effectivement avec des marcheurs de ma circonscription. Alors, le débat est toujours un petit peu plus complexe chez moi parce qu'on est une personne n'étant vraiment spécialiste, le jardinage se limitant peut-être au potager au fond du jardin, mais voilà, sans forcément avoir recours au glyphosate, mais quand on a échangé sur ce sujet, effectivement, il y a beaucoup c'est un peu comme le diesel. Vous avez beaucoup incité les agriculteurs à faire de l'agriculture intensive ou ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être l'agriculture conventionnelle et aujourd'hui vous leur demandez de changer, mais c'est ça qu'il faut mener, c'est comment est-ce qu'on accompagne le changement, comment est-ce qu'on accompagne la transition, comment est-ce qu'on soutient l'agriculture pour passer au moins, si c'est pas une agriculture bio, à davantage d'agroécologie comme ce qui avait été porté par le quinquennat précédent. Donc il y a certainement effectivement encore un énorme travail à faire.
Merci beaucoup Marie Lebec. Je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche de la 4e circonscription des Yvelines. Merci Stéphane Foucard, journaliste au Monde. Vous venez de publier « Des marchés et des dieux, comment l'économie devint religion » chez Grasset.